travaille comme médecin addictologue, comme on dit, hein, c'est addictologue, c'est un mot, et addictologie, ce sont des mots relativement récents. L'addictologie, c'est une discipline qui est en train de naître, et pour dire les choses vite, qui est une sorte de puzzle entre ce qui venait de la prise en charge des patients qui avaient des problèmes d'alcool, des gens qui voulaient arrêter de fumer du tabac, des drogues illicites, et puis de ce qu'on appelle aujourd'hui les addictions sans substance, le jeu pathologique, l'addiction au sexe, l'addiction à l'internet, aux jeux vidéo, etc. Dans mon travail d'addictologue, je ne rencontre à peu près jamais des gens de votre âge. Les gens que je vois, et c'est un des problèmes de notre discipline, je les vois tardivement. Qu'il s'agisse d'alcool, qu'il s'agisse de drogue illicite, lorsque les gens viennent nous voir, sauf dans le cas où ils ont ce qu'on appelle une obligation de soins, et j'y reviendrai parce que il y a des obligations de soins en matière de cannabis en particulier. Hein, en matière de cannabis, cette obligation de soins, ça s'appelle une injonction thérapeutique. J'y reviendrai dans un instant. En dehors donc de la situation où il y a, par exemple, une injonction thérapeutique pour du cannabis, je vois à peu près jamais de jeunes gens. Je vois des gens qui sont déjà âgés, qui ont 30, 35, 40 ans, et qui ont depuis des années et des années un problème lourd de consommation de soit de médicaments, soit de drogues illicites, soit d'alcool, et qui finissent par faire une démarche de soins parce qu'ils ont des problèmes très lourds, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce que leur compagne ou leur compagnon est parti, parce que ils ont perdu leur logement, parce qu'ils sont en train de se marginaliser, de se désocialiser, et qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans le domaine dans lequel je travaille, on voit effectivement les gens tardivement. Ce que je vais faire, c'est essayer de vous parler d'un certain nombre de questions qui, normalement, sont des questions qui vous concernent. Alors, ça vous concerne peut-être pas tous, mais ça concerne forcément un certain nombre d'entre vous. Ah oui, d'accord. Ça concerne forcément un certain nombre d'entre vous. Et donc, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est d'un triangle qui est le triangle tabac, alcool, cannabis. Ce sont les trois substances qu'on retrouve le plus fréquemment chez les gens autour de 15, 16, 17, 18 ans. Vous savez qu'il y a une journée d'appel à la défense durant laquelle, une année sur deux, on fait passer un questionnaire, on demande aux gens de répondre à des questions de manière anonyme sur leur consommation de toutes sortes de sur leurs problèmes de santé en général et sur leur consommation de toutes sortes de substances, en particulier tabac, alcool, cannabis et puis d'autres drogues, héroïne, cocaïne, LSD, etc. Et donc on a une idée assez précise de ces consommations. Et il y a en particulier un élément qui est quand même extrêmement impressionnant, c'est que à l'âge de 17 ans, les garçons, pour les filles, c'est, les consommations sont moindres, j'y reviendrai un instant sur les filles. À l'âge de 17 ans, il y a plus de 50% des garçons qui ont déjà au moins consommé une fois du cannabis. On peut le dire autrement. À 17 ans, un garçon qui n'a jamais consommé ne fût-ce qu'une fois du cannabis appartient à une minorité. De ce point de vue-là, si on compare la situation qui prévaut aujourd'hui à la situation qui prévalait il y a 20 ou 30 ans, on a changé de monde. Il y a eu à la fois une massification, comme on dit, hein, c'est-à-dire que ça a atteint des masses de gens, une massification des consommations de cannabis, et en même temps, il y a eu un deuxième élément qui est un peu plus problématique, c'est qu'il y a eu une précocité beaucoup plus grande des usages. C'est-à-dire qu'on rencontre aujourd'hui des consommateurs qui sont parfois des consommateurs problématiques. Hein, tous les consommateurs de cannabis ne sont pas des consommateurs problématiques, mais on rencontre aujourd'hui des consommateurs problématiques de cannabis qui ont 12-13 ans. Ce qui est quelque chose qui n'existait pas il y a encore, ou très très peu, qui existait de manière anecdotique il y a encore 15 ou 20 ans. Je parlais des garçons. D'une manière générale en matière de drogue, il faut savoir que les garçons consomment plus que les filles dans toutes les catégories de substances, à l'exception d'une seule catégorie qui sont les médicaments psychotropes, c'est-à-dire les anxiolytiques, hein, les médicaments contre l'anxiété, les médicaments pour dormir, les antidépresseurs. Ce type de médicaments-là, qu'on appelle des médicaments psychotropes, sont consommés plus par les filles que par les garçons, ce qui signifie forcément quelque chose. Mais s'il s'agit de tabac, s'il s'agit d'alcool, s'il s'agit de drogues illicites, les garçons sont très largement devant. Alors, ce triangle tabac, alcool, cannabis, il a d'une certaine manière une forte logique. Parce que quand on a consommé du tabac, il est plus facile de consommer du cannabis, puisqu'on a déjà fumé. Donc on passe d'une substance fumée à une autre substance fumée. Et quant au lien entre l'alcool et le cannabis, ben c'est que d'une certaine manière, quand on a expérimenté l'ivresse alcoolique, pourquoi ne pas expérimenter l'ivresse cannabique? Ou à l'inverse, lorsqu'on a expérimenté l'ivresse cannabique, pourquoi ne pas expérimenter l'ivresse alcoolique? Et donc, on constate que ceux qui consomment, par exemple, de l'alcool et du tabac sont aussi ceux qui consomment plus volontiers du cannabis. Je vais vous dire un mot du tabac, je vais aller vite sur le tabac, bien que le tabac soit actuellement le toxique qui tue le plus de personnes au monde, hein. On est dans une épidémie de consommation de tabac à l'échelle mondiale qui est hallucinante. Nous, on s'en rend pas compte parce que d'une certaine manière, notre épidémie de consommation de tabac, elle est globalement derrière nous, même si les gens de votre âge fument beaucoup de tabac. Mais dans les pays émergents ou dans les pays du tiers-monde, il y a une explosion de la consommation de tabac qui est absolument impressionnante. Je vais aller très vite sur le tabac. La vacherie avec le tabac, c'est que c'est la nicotine qui accroche, mais ce sont les goudrons qui sont toxiques. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de complications du tabac, à commencer par des cancers, souvent des cancers bronchopulmonaires, des cancers de la vessie, etc. Mais le principal problème, c'est que c'est extrêmement difficile, après un certain nombre d'années de consommation, d'arrêter le tabac. Et bien qu'on ait aujourd'hui un certain nombre de traitements médicamenteux qui marchent pas trop mal, hein, vous savez, comme les traitements substitutifs par la nicotine, hein, les patchs de nicotine, les gommes, etc. Et puis on a un certain nombre de médicaments qui quand même facilite l'arrêt du tabac, les résultats globaux en matière d'arrêt du tabac sont vraiment pas bons. Et si on prend les filles, si on prend les femmes, le principal obstacle à l'arrêt du tabac chez les femmes, c'est la prise de poids. Elle est mieux vécue pour des raisons évidentes par les hommes, mais en tout cas, en matière de tabac, les résultats qu'on a sont pas bons. Et c'est vrai que lorsqu'on a commencé à fumer, d'abord, et ça c'est vrai pour toutes les drogues, plus on commence tôt, plus c'est difficile d'arrêter. Et ensuite, c'est sûr qu'à 20 ans, on peut fumer beaucoup de tabac et ne pas avoir le sentiment qu'on abîme sa santé, parce qu'on a des poumons qui sont tout neufs, parce qu'on est en forme, et donc ça pose pas de problème. C'est avec les années qu'on va se rendre compte que ça en pose. Je passe à l'alcool. Alors je vais essayer de c'est l'alcool, c'est une histoire qui est compliquée. En gros, il y a deux grandes modalités de consommation de l'alcool. Soit on boit de l'alcool tous les jours, par exemple on boit du vin tous les jours à table, ou de la bière, ou du whisky, peu importe, mais en tout cas on boit tous les jours des quantités plus ou moins importantes. Soit on boit de manière séquentielle, on boit par exemple le week-end, et puis la semaine on boit pas. Le premier modèle, c'est plutôt les modes de consommation de l'Europe du Sud, hein, où on boit du vin, où on boit volontiers du vin. Le modèle de consommation de l'Europe du Nord, c'est on boit pas pendant la semaine, et le week-end on se torche, on se met la tête à l'envers. On parle beaucoup en ce moment de ce qu'on appelle, mais donc vous en avez forcément entendu parler ou vécu, du binge drinking. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'en matière de toxique, en matière de drogue, c'est souvent la Grande-Bretagne qui donne le la. La grande vague de consommation de drogue qui a commencé au tout début des années 60 en Europe, elle a démarré en Angleterre et elle n'a que secondairement touché l'Europe continentale. Lorsque les consommations d'ecstasy ont commencé à grimper en Europe, c'est d'abord en Angleterre que ça a commencé. Et la mode, on peut dire ça comme ça, la mode du binge drinking est une mode anglaise. Alors vous savez quel est le principe du binge drinking? Ça consiste à boire aussi rapidement qu'il est possible des alcools forts, des alcools distillés habituellement, type whisky, vodka, rhum, etc., pour être ivre le plus vite possible. Le problème, c'est que l'alcool, c'est une substance assez dangereuse, puisque on peut parfaitement faire un coma alcoolique, c'est-à-dire un accident aigu lié à la consommation lourde d'alcool, et qu'un certain nombre de ces comas alcooliques sont mortels. Et il y a des décès qui sont liés au binge drinking. Donc c'est vrai que c'est une pratique qui est particulièrement dangereuse. Il faut vraiment faire attention. Là, beaucoup de gens jeunes ignorent que la consommation lourde d'alcool, la consommation de quantité importante d'alcool sur des temps très courts, ça peut provoquer un coma alcoolique, et ce coma alcoolique peut provoquer un décès. Chez les grands alcooliques, c'est au contraire l'arrêt brutal de l'alcool qui peut provoquer un décès. Hein. C'est, il y a peu de substances qui, à l'arrêt brutal, peuvent provoquer un décès. Même si arrêter l'héroïne après des années de consommation, c'est pas facile du tout, même s'il y a des signes de manque qui sont tout à fait réels, il n'y a pas de décès lié à l'arrêt brutal de l'héroïne. Il peut y avoir des décès liés à l'arrêt brutal d'alcool chez des grands alcooliques chroniques. L'alcool pose un autre problème redoutable, qui est celui de la consommation de, qui est celui de la conduite de véhicule. Tous les week-ends, des gens jeunes qui meurent sur les routes parce que la personne qui a pris le volant était bourrée et que ils sortent de la route, ils s'écrasent contre un camion, un arbre, que sais-je. En tout cas, il y a un certain nombre de décès. La première cause de mortalité, vous le savez, de votre classe d'âge, ce sont les accidents de la voie publique, essentiellement les accidents de deux ou de quatre roues. Viennent ensuite les tentatives de suicide. En tout cas, le premier problème, en dehors du coma alcoolique que pose la consommation lourde d'alcool, c'est la conduite de véhicule. Il y a d'autres soucis qui peuvent être liés à l'alcool. Par exemple, il est très difficile, sinon impossible, d'avoir un rapport sexuel protégé lorsqu'on a picolé, parce que l'alcool désinhibe. Hein, d'ailleurs, c'est bien connu, il y a des gens comme ça qui sont très timides, ils boivent un verre de whisky et puis ils se mettent à être beaucoup moins timides, à parler, etc., à draguer éventuellement. En tout cas, ils sont, comme on dit, désinhibés. Cette désinhibition, elle fait qu'habituellement, lorsqu'on est alcoolisé, on a plutôt tendance à appuyer sur le champignon, hein, qu'à être prudent. Et de la même manière, si on est alcoolisé, habituellement, on ne sera pas capable de prendre des précautions sur le plan des rapports sexuels. Ça peut évidemment avoir des conséquences tout à fait graves. J'en viens au cannabis, qui est l'objet, vous le savez, d'énormément de polémiques. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que sur le cannabis, il faut être clair, il n'y a pas de consensus. Vous pourrez toujours trouver, en matière de cannabis, des médecins, par exemple, qui vont vous expliquer que le cannabis est une substance extraordinairement dangereuse, et vous en trouverez aussi qui vont vous expliquer que le cannabis est une substance dont la dangerosité est extrêmement faible. Je fais plutôt partie de la deuxième école. Mais je voudrais vous donner un premier exemple de ça. En 1998, il y a le ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelle Bernard Kouchner, avait demandé à un groupe de scientifiques, le type qui dirigeait ce groupe de travail, s'appelle Bernard Rock, c'était 1998, de publier un rapport sur la dangerosité des drogues. Et le rapport Rock avait abouti à la conclusion générale suivante: le cannabis est une drogue dont la dangerosité est extrêmement faible. Et il y avait dans ce groupe des neurobiologistes, des médecins, des addictologues, etc. À l'inverse, l'Académie nationale de médecine continue à dire que le cannabis est une substance extraordinairement dangereuse. Alors je voudrais essayer de faire le point sur la question de la dangerosité du cannabis. Il y a une dangerosité, excusez-moi, j'ai un peu chaud. Ah mais...
Non.
Ah ouais, non, mais non, ouais. Pardon, mais... Pardon. Il fait chaud, hein, non? Merci. Alors, il y a une dangerosité qui est tout à fait avérée, c'est la dangerosité bronchopulmonaire. D'autant plus que en France en particulier, le cannabis est principalement consommé sous forme de résine, c'est-à-dire sous forme de hashish. Il y a beaucoup plus de hash que d'herbe. Et donc, le hashish est systématiquement associé au tabac. Donc, il y a la toxicité du tabac, plus la toxicité bronchopulmonaire du cannabis. Pour le reste, les choses sont compliquées. Chez les consommateurs chroniques de cannabis, on décrit ce qu'on appelle un syndrome amotivationnel. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est des gens qui consomment beaucoup de cannabis et qui n'ont plus envie de faire grand-chose, pour dire les choses vite. Hein. Bon. Alors, qu'il y ait une dimension amotivationnelle ou peu motivationnelle dans le cannabis, c'est pas complètement faux. C'est plutôt une drogue de paresseux. Mais ça ne dit rien de la toxicité ou de la dangerosité du cannabis. En particulier, il y a des choses qui sont intéressantes concernant le cannabis et les activités qu'on peut avoir. Le cannabis ne gêne pas les activités répétitives. Il y a des musiciens qui peuvent refaire 50 fois le même accord sous cannabis. Le cannabis n'empêche pas l'imagination. Moreno, l'inventeur de la carte à puce, était en train de fumer un joint quand il a eu l'idée de la carte à puce. En revanche, et là on voit bien que ça peut impacter sur les résultats scolaires, le cannabis c'est pas formidable pour engrammer des informations nouvelles. En d'autres termes, c'est pas formidable pour apprendre. C'est sûr que fumer un joint sur le chemin de l'école le matin pour assister au cours de maths ou au cours d'histoire, c'est pas vraiment une idée lumineuse parce que on va rêvasser et on va être assez peu présent. Donc il est indéniable, surtout lorsque les consommations démarrent le matin et sont lourdes, que la consommation de cannabis peut avoir des conséquences négatives sur les résultats scolaires. On peut le nier, mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Pour le reste, en matière de conduite de véhicule, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est plutôt moins dangereux que l'alcool. Le problème, disons que l'accidentalité liée à l'alcool, elle est multipliée par 5, par rapport à quelqu'un qui n'a pas bu, multipliée par 2 pour le cannabis, mais l'association des deux, qui est fréquente, alcool plus cannabis, multiplie le risque d'accidentalité par 10, 5 fois 2. Parce que, à la désinhibition de l'alcool, je me prends pour Fangio, il y a le côté un peu flou, espace-temps, son, etc. du cannabis. Le cannabis, a priori, rend un peu prudent. Alors que l'alcool désinhibe, le cannabis a tendance à rendre prudent, parce que les gens sentent bien qu'ils sont pas complètement, qu'ils sont un peu moins performants que d'habitude. Mais l'association des deux pose évidemment un problème. Avec le cannabis, on est dans une situation compliquée parce que il y a des consommations qui sont trop lourdes et qui deviennent problématiques. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez, en matière de drogue, la première chose à dire, c'est que rien n'est poison. Rien n'est poison. Tout est poison. C'est la dose qui fait le poison. C'est une phrase de Claude Bernard, qui était un physiologiste du siècle, enfin, d'il y a deux siècles. La question en matière de drogue, les questions de quantité sont toujours des questions absolument cruciales et ce sont les premières questions à examiner. Quelle que soit la substance, c'est pas la même chose de consommer 1 gramme et de consommer 500 grammes. Donc en matière de cannabis aussi, il y a un problème de quantité qui est évident. C'est pas la même chose de fumer un joint le soir après l'école ou de fumer 20 joints dans la journée. Il y a un problème de quantité qui est tout à fait réel. En tout cas, on voit bien comment ce triangle alcool plus tabac plus cannabis peut fonctionner et de fait, comme je vous l'ai dit, ce sont les mêmes qui habituellement consomment du tabac, de l'alcool et du cannabis. On retrouve, il y a une sous-population, mais qui est aujourd'hui extrêmement importante, puisque je vous donnais quelques chiffres sur les consommations de cannabis en France aujourd'hui. En l'espace d'une quinzaine d'années, la France est devenue pratiquement le pays d'Europe où la consommation de cannabis est la plus importante. Et ça, c'est vrai que c'est une transformation qui est tout à fait frappante. Il y a une vingtaine d'années, des pays comme l'Espagne ou des pays comme la Hollande, les Pays-Bas, dans lesquels il y a des coffee shops, ou l'Angleterre étaient des pays dans lesquels la consommation de cannabis était bien plus importante qu'en France. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez que j'aborde d'autres substances? Ou est-ce qu'on passe, disons, à ce qui, aux problèmes qui sont liés, on pourrait appeler ça l'addiction aux écrans, ou qui sont liés au téléphone portable, à l'internet, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, etc., etc., à la télé, les écrans. Ou est-ce que vous souhaitez que j'évoque un certain nombre de choses concernant d'autres substances? C'est moi qui vais répondre alors à la question. J'ai encore combien de temps? Bon, ben écoutez, je vais peut-être à tort laisser tomber les autres substances, et je voudrais essayer de vous expliquer en deux mots ce qui s'est passé avec cette histoire d'addictologie, et ensuite parler des écrans. Tout à l'heure, je vous disais que l'addictologie était une discipline qui était en voie de constitution, que c'était un peu un puzzle, c'est-à-dire que longtemps, la prise en charge des patients ayant des problèmes d'alcool et des patients ayant des problèmes avec les drogues, habituellement des drogues dures, héroïne, cocaïne, etc., étaient totalement séparées. Après le rapport dont je parlais tout à l'heure, le rapport ROC de 1998, on a au contraire décidé de les, au moins de faire en sorte qu'il y ait des passerelles entre les deux dispositifs, hein, le dispositif alcool d'un côté et le dispositif drogue illicite de l'autre, et puis finalement de fondre ces deux dispositifs. Et aujourd'hui, il y a des structures qui s'appellent les XAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui s'occupent à la fois, lorsqu'ils le souhaitent, d'alcool et de drogues illicites. Il y a eu les histoires de tabac, donc voilà, l'addictologie, c'était le tabac, l'alcool, les drogues illicites, mais évidemment aussi, j'ai utilisé cette expression tout à l'heure, ce qu'on appelle les médicaments psychotropes, hein, tous ces médicaments qui servent soit à diminuer l'anxiété, soit qui permettent de dormir chez les gens qui ont des problèmes de sommeil, soit qui permettent à des gens qui sont déprimés d'être moins tristes, moins déprimés, moins mélancoliques. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les médicaments psychotropes, mais ces substances, les médicaments psychotropes, ce sont des drogues, ce sont des substances psychoactives, ce sont des substances qui provoquent ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. Donc bon, elles ont un statut, ce sont des drogues légales, mais si on en prend beaucoup, et surtout si on en prend beaucoup, enfin si on en prend en les associant à l'alcool, hein, le cocktail médicaments psychotropes alcool, ça, c'est une défonce, c'est d'ailleurs la défonce la moins chère sur le marché. Les gens très marginalisés qui veulent se mettre la tête à l'envers, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment de l'alcool, habituellement des bières fortement dosées, hein, autour entre 8-10 degrés, et des médicaments psychotropes. Et c'est ce qu'il y a de moins cher. Habituellement, le médicament psychotrope, il a été payé, ils n'ont rien eu à débourser, et ces bières, les bières dont je parle, 8-6, Amsterdam, etc., sont des bières qui sont relativement bon marché. À cet ensemble de domaines, mais dans lesquels on a affaire à des substances. C'est de l'alcool, c'est du cannabis, c'est de l'héroïne, c'est un anxiolytique, je sais pas, du Valium, etc. Il y a les addictions dites sans substance. C'est quoi les addictions sans substance? Il y en a une qui va avoir en quelque sorte un statut officiel d'addiction, c'est la seule actuellement. Ce sera le cas l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle le jeu pathologique, hein, c'est-à-dire que ce sont des gens pour qui les émotions, qui peuvent être parfois d'une intensité extrême, les émotions liées au jeu, lorsque sur une table de poker ou de blackjack ou à la roulette, on joue tout ce qu'on a, on vit des moments d'une intensité incroyable dans les secondes qui précèdent le moment où la bille va s'arrêter sur un numéro et où soit on va tout gagner, soit tout perdre. Bon, enfin, en tout cas, il y a des gens qui ont avec le jeu, avec les jeux d'argent, une relation extrêmement intense et qui finit par être pathologique, qui finit par constituer une addiction, une véritable dépendance. Ces gens-là sont dans la même situation que les gens qui dépensent tout ce qu'ils ont dans une drogue donnée ou dans plusieurs drogues. C'est des gens souvent qui ont des problèmes professionnels, qui ont des problèmes familiaux, leur compagne ou compagnon les quitte, etc. Ils ont toutes sortes de difficultés. C'est le jeu pathologique. Très bien. Et puis, il y a toute une série d'autres addictions qui ont encore un statut un peu flou. Il y a l'addiction au sexe. L'addiction au sexe, moi, au début, quand on m'a parlé d'addiction au sexe, il y a quelques années, j'ai rigolé. Je dis, on est tous addicts au sexe, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Et puis, j'ai rencontré des addicts au sexe et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une invention, quoi. Ce sont des personnes qui sont quand même très, 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 très malades. L'addiction au sexe, elle va souvent de pair. Juste un point sur l'addiction au sexe. On peut être un grand addict au sexe et ne pas être un prédateur sexuel. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La majorité des addicts au sexe ne sont pas des prédateurs sexuels. Et en particulier, ils passent beaucoup de temps sur l'internet, sur le web, sur des sites pornographiques. Et ça peut occuper l'essentiel de leur activité. Quelqu'un qui va passer toutes ses nuits sur des sites pornographiques, vous vous doutez bien qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, il est à peu près dans l'incapacité de travailler, il est dans un état d'épuisement à peu près total. Donc il y a des liens entre une possible addiction au sexe et les histoires d'écran, les histoires d'Internet. D'une manière générale, vous savez que vous faites partie d'une génération qu'on appelle, en bon français, les digital natives. C'est-à-dire que vous êtes nés avec le téléphone portable, avec les ordinateurs, avec les jeux vidéo, etc., ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je me souviens de la bouille que mon fils a faite la première fois qu'il a vu un téléphone à... Vous voyez ce que je veux dire, un téléphone manuel. Un téléphone à cadran. Il n'en avait jamais vu. Pour lui, c'était un truc totalement préhistorique. Il avait l'impression que c'était quelque chose qui devait dater d'il y a plusieurs siècles. Ben non, moi je l'ai utilisé pendant les 30 premières années de ma vie, j'ai utilisé, ou 35, j'en sais rien, j'ai utilisé des téléphones comme ça. En tout cas, vous êtes des digital natives, ça veut dire que vous êtes nés avec les jeux vidéo, et que vous utilisez habituellement ces instruments beaucoup mieux que les adultes. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau et quelque chose qui, d'une certaine manière, bouleverse l'ordre et l'échelle des générations. Pourquoi ? Parce que le plus souvent, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ce sont les jeunes gens qui expliquent à leurs parents comment il faut faire ça sur le net, comment il faut utiliser Skype, comment il faut, je ne sais pas. Nous, on a beaucoup de mal à le faire, et pour vous, c'est très facile. Le résultat de cette situation, c'est aussi que on est particulièrement mal placé pour vous aider. Par exemple, il y a toutes sortes d'études qui montrent que les parents ne savent habituellement pas quel est le contenu des jeux vidéo que leurs enfants utilisent. Comme ça, ils regardent en passant, ils aperçoivent des trucs, mais en fait, ils n'y jouent pas, ça les intéresse pas beaucoup, ils y comprennent à peu près rien, et ils passent à autre chose. Alors, s'il fallait dire un certain nombre de choses concernant, disons, les écrans, et sans utiliser le mot addiction, pour deux raisons. Un, parce que actuellement, de manière officielle, on va dire, ce ne sont pas des addictions. Si vous voulez, officiellement, l'addiction aux jeux vidéo est un truc qui n'existe pas, même si on sait qu'il y a des gens qui ont une relation addictive, en tout cas, avec ces jeux vidéo, puisqu'ils ne font plus que ça, que tout le reste disparaît, et qu'on est bien dans cette situation de perte de contrôle, de perte de maîtrise. La première chose qu'il faut dire, c'est que il y a des sites de rencontres, où il y a des sites comme Facebook, etc. Et il faut quand même faire attention à l'utilisation qu'on fait de ces sites-là. La première chose qu'il faut dire, c'est que concernant les sites de rencontres, et évidemment ce que je vais dire concernerait plutôt des femmes, mais ça peut aussi concerner des hommes, avoir un rendez-vous avec quelqu'un qu'on a rencontré sur le net, avoir un rendez-vous réel avec quelqu'un qu'on a rencontré sur le net, c'est possiblement dangereux. On ne sait pas sur qui on va tomber. Et donc le faire sans prévenir personne et sans que personne sache qu'on va faire ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Il y a eu des histoires dramatiques comme ça. On peut, alors, je ne dis pas que c'est la règle, mais on peut tomber dans un traquenard, on peut se retrouver dans une situation où on est en danger, et si personne ne sait qu'on avait l'intention de faire ça, la situation peut devenir dramatique. Moins dramatique, mais embêtant quand même, le fait qu'on peut facilement mettre sur les réseaux sociaux des choses qui vont vous poursuivre toute la vie, ou même qui vont vous rattraper très rapidement. Il y a eu plusieurs histoires qui d'une certaine manière sont drôles, mais enfin qui pour la personne qui les a vécues le sont certainement moins. Ce sont des gens qui sont en arrêt de travail, qui vont à une fête, qui se font filmer ou photographier en train de faire les oifs. Tout ça est mis sur le mur du bonhomme, et l'employeur découvre que son salarié en arrêt de travail, apparemment, ce soir-là, en tout cas, il a l'air plutôt sténique et plutôt en forme. Et le type se fait virer. Donc, il faut être relativement prudent sur ce qu'on met sur la toile, parce que ça peut vous poursuivre longtemps et ça peut même vous créer pas mal d'ennuis. Pour le reste, il faut que vous sachiez, parce que vous le savez peut-être pas, il me reste un peu de temps, là, vous n'êtes pas trop fatigué, Bon. Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que pour nous, pour moi par exemple, qui est 60 ans, personne n'est parfait, j'ai souvent le sentiment, quand je vois des gens de votre âge, que quelque chose qu'on faisait de mon temps extrêmement facilement, et qui consistait, enfin cela étant, je vous trouve très sage, hein, donc ce que je vais dire est un peu... Ce qu'on faisait très facilement de longtemps, c'est-à-dire être concentré sur un objet pendant une heure ou deux, on a souvent l'impression que pour vous, c'est devenu quelque chose d'extrêmement difficile. Que vous avez d'autres habiletés que nous, ne fût-ce que parce que vous êtes des digital natives et qu'avec les ordinateurs, avec toutes ces technologies modernes, vous êtes très très à l'aise. Mais on a l'impression aussi que vous n'êtes à l'aise que dans le zapping et que vous avez du mal à vous concentrer longtemps sur un objet spécifique. Peut-être c'est une idée fausse, hein, mais en tout cas, les parents et les éducateurs, par rapport à ces objets techniques qui sont devenus des objets fondamentaux aujourd'hui, à peu près tout se passe sur le net, y compris la recherche de travail, les connexions, les liens sociaux. Il y a des gens qui se vendent sur Facebook parce qu'ils se présentent, ils mettent leur CV, ce qu'ils ont fait. On voit bien, et puis on y trouve toutes les informations de la Terre, c'est une sorte de bibliothèque universelle. Très bien. Ce qui fait que les éducateurs et les adultes sont dans une situation impossible. D'un côté, ils ont cette inquiétude de vous voir passer trop de temps avec des jeux vidéo, de vous voir déconcentré en cours parce que votre téléphone portable ne cesse de vibrer, de vous voir accroché à la télévision ou de vous voir, on va dire, perdre votre temps ou être profondément déconcentré par l'utilisation intensive de ces objets. Et d'un autre côté, on a le sentiment, on sait que c'est bien avec l'Internet, que c'est bien avec les tablettes numériques, que c'est bien avec ces objets techniques nouveaux qu'il va falloir que vous fassiez et que meilleur vous serez dans ce domaine, plus vous aurez de chances de vous en sortir. Donc on ne sait plus très bien quoi faire, mais l'inquiétude, j'ai fait des interventions dans des collèges ou des lycées, très souvent les profs parlent à la fois de ces histoires de concentration que j'évoquais il y a un instant, et puis du fait que, qu'ils suivent tel élève qui de toute façon a la télévision dans sa chambre, regarde des films sur son ordinateur, arrive le matin en classe incapable de garder les yeux ouverts tellement il est fatigué, et donc manifestement tout ça peut être tout à fait négatif. Donc on ne peut pas parler d'addiction concernant les choses que j'évoque actuellement, à la fois parce que, encore une fois, ce n'est pas officiel, et aussi parce que le mot addiction est un mot qu'on réserve aux adultes, hein. Vous êtes des jeunes adultes, mais vous êtes encore en période, je sais pas, de maturation. On ne peut pas utiliser le terme addiction trop tôt dans la vie des gens. Addiction est un diagnostic qui arrive un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a des préoccupations, disons, autour de la surprésence des écrans, celui des téléphones portables, celui des ordinateurs, celui des jeux vidéo, celui de la télévision, dans votre génération, qui fait que, fréquemment, à propos de ce rapport très, très fort à ces objets, on parle de manière un peu exagérée d'addiction. Écoutez, je sais pas depuis quand je parle. Mais écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que ça me permettra éventuellement de répondre un peu plus longuement s'il y a des choses qui sont des questions qui sont complètement en dehors des thèmes que j'ai abordés. Moi je m'arrête là et je vous.
Alors, il reste une heure.
On a une heure de discussion.